franceinter.fr.
T'as pris le temps de réfléchir, tu te souviens, et nous, il fallait bien qu'on avance.
C'est moi la candidate, c'est censé être mon programme, non?
Non, c'est pas ton programme. Tu es la tête de liste à parti, tu le représentes, tu portes son projet. Jusqu'ici, il m'a semblé qu'on était assez d'accord.
Mais vous ne m'avez pas montré le programme.
Mais on s'en fout du programme. C'est un document publicitaire, des slogans, personne ne le lit.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, I hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
On are to vous.
Hey, boys! Come save me!
You're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
À 10 ans déjà, il n'imaginait pas autre chose qu'être acteur. Lui, au contraire, a découvert sa passion bien plus tard en jouant par hasard dans un court-métrage. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous pour citer Éluard. À l'arrivée, un homme très très confirmé face à un garçon plein d'espoir. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Avec l'âge, dit-il, je vais pouvoir exploiter davantage de zones d'ombre. Eh bien, ce film le confirme. Bonjour André Dussolier.
Bonjour.
Vous êtes à l'affiche de « Chez nous » de Lucas Bellevaux, dans lequel votre personnage Philippe Berthier va pousser la jeune infirmière Pauline, c'est Émilie Dequesne, dans les bras d'un parti extrême. Berthier, à la fois chaleureux et manipulateur. Et il fallait un acteur de votre trempe pour réussir à être aussi rassurant qu'inquiétant. « Chez nous » sort mercredi prochain sur les écrans. Dans un autre registre, lui aussi incarne à la fois la protection et la menace. Bonjour Sébastien Aubani.
Bonjour.
Grand frère de Zahira dans Nos, de Stéphane Strecker, Zahira belgo-pakistanaise, à qui sa famille impose un mariage traditionnel. Sébastien, comment on dit bonjour en ourdou?
Je me souviens plus.
Assalamu alaikum. L'ourdou que vous avez appris pour ce film Nos sort également mercredi prochain. À l'affiche cette semaine, les doutes d'un acteur, l'histoire d'une mère, David Lynch dans son atelier ou un amour interdit dans l'Amérique ségrégationniste. Sébastien Aubani, jeune recrue dans ce métier acteur, votre rêve, j'imagine, c'est de durer le plus longtemps possible, ce qui est le cas de votre voisin ce matin dans ce studio. André Dussolier, comment fait-on au-delà du talent pour durer ?
Un film, c'est toujours un premier film, à quel âge qu'on le fasse. C'est vrai que c'est un métier très aléatoire et plein d'incertitudes, mais en même temps, avec l'envie, le plaisir, l'échange, je pense que voilà, à chaque âge correspond un rôle, c'est notre chance un peu, donc Sébastien, il a son âge, il aura les rôles qui correspondent, et puis voilà, évoluant en fonction des personnages qu'on joue, en fonction du désir qu'on provoque aussi chez les réalisateurs, mais c'est toujours plein d'incertitudes, bien sûr.
Sébastien, ça va être dur de durer, selon vous?
L'avenir me le dira, mais écoutez, pour l'instant, oui, je pense que c'est une bataille. Enfin, jusqu'à présent, moi, je m'estime assez chanceux, même si ça fait 10 ans que j'essaye d'être comédien. J'ai fait tous les petits boulots de la terre pour voilà, mais ça fait 2 ans que j'en vis pour l'instant, et l'avenir me dira si.
Donc ça reste une angoisse quand même de durer. Enfin,
c'est une angoisse. Moi, c'est surtout excitant. Je trouve que le fait d'avoir un avenir qui n'est pas tracé, moi, c'est quelque chose qui m'excite plus qu'autre chose.
C'est le sel de votre métier. André Dussolier, à vos côtés, je vous dis, à vos côtés, il y a un acteur qui a eu le premier prix de conservatoire, 3 Césars, 1 Molière et.
Vous applaudir, hein.
C'est fait. La bibliothèque intercommunale de Cruseuil a désormais un nom. Et pas n'importe lequel, celui d'un enfant du pays. Il évolue désormais au sommet de son art, le 7e. André Dussolier était aux anges, manifestement très heureux de prêter son nom à un établissement qu'il aurait bien aimé avoir lorsqu'il était enfant.
C'est vrai, André Dussolier, il y a de quoi être fier, hein, d'avoir son nom associé à celui d'une bibliothèque.
Surtout que je ne lisais pas beaucoup à l'époque.
C'est vrai.
Dans mon petit village, je ne lisais rien et donc je suis très content maintenant. En effet, je conçois même le projet d'amener des tas de livres. Il y a toujours des tas de livres qu'on a lus et qu'on n'a pas envie de voir séjourner dans un carton. Donc je vais leur amener des tas de livres aussi à cette bibliothèque.
Vous avez fait des lectures, beaucoup, enregistrées notamment.
Oui,
c'est quelque chose que vous aimez bien.
C'était une oui, c'est arrivé assez tôt d'ailleurs, en faisant des voix off et en enregistrant des livres. En effet, c'est vrai que on vit dans un monde si rapide que les gens aiment beaucoup qu'on leur mâche le travail peut-être et qu'on leur fasse découvrir des auteurs qui n'auraient peut-être pas le temps de lire.
Creusey, donc, entre Annecy et Genève, où vous avez passé une partie de votre enfance, une petite ville comme celle décrite dans ce film Chez nous, mais elle beaucoup plus haut dans le nord, décrite très subtilement à travers 3-4 scènes au début du film, à travers surtout des visites qu'entreprend l'infirmière locale, Pauline incarnée par Émilie Dequesne. Vous, vous êtes le médecin, donc son supérieur, et celui qui a accompagné sa mère dans la maladie, et c'est ce médecin Berthier qui, à la veille des municipales, va la pousser à se présenter pour un parti extrême. Berthier, figure paternelle du CRU, appartient, dit Lucas Bellevaux, à une vieille droite maurassienne. C'est comme absolument ça que vous l'avez approché.
Oui, oui, il représente un peu l'histoire de ce parti d'extrême droite, c'est-à-dire qu'à la fois il était proche des moments où il y avait, enfin, disons-le, ça s'appelle le Bloc, mais enfin, on pense évidemment au Front National, et donc il représente un peu tout l'historique de ce parti-là, c'est-à-dire avec les moments où il y avait des groupes violents, radicaux, et puis aujourd'hui avec l'envie du parti d'extrême droite actuel qui a envie de se redorer un peu, enfin, de se faire une belle image ou une image rassurante, en tout cas vis-à-vis des électeurs. C'est comme ça qu'il arrive à manipuler cette infirmière qui est proche de lui, proche aussi des gens qu'il rencontre sur le terrain.
Et d'ailleurs, au cours de ce dîner, il va tenter de la convaincre, extrait.
Et la politique, ça t'intéresse ?
Pas vraiment, non.
Tu votes ?
Pas trop. Pas du tout, même. Ça sert à rien.
T'es sûr de ça ?
Ça fait presque 15 ans que je travaille et que tous les jours, ça empire. On change de ministre, on change de président, mais à part les têtes, y'a rien qui change.
Oui, c'est vrai. C'est toujours les mêmes programmes, la même pensée. La gauche, la droite, c'est pareil. Toi, tu te sens plutôt de gauche ou de droite ?
Vous vous doutez bien, plutôt de gauche. Et vous, plutôt de droite ?
Non, tu te trompes. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, c'est la France qui m'intéresse. La France et les Français. Ça te fait rire ? Pourtant, c'est pour les gens que je fais ce que je fais, comme toi.
C'est vrai.
T'as pas envie de faire bouger tout ça ?
Si je pouvais. C'est pas ma voix qui changera grand-chose.
Mais si, bien sûr que si. Seulement, il faut la faire entendre, ta voix. Et pas seulement en votant. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Voilà.
Vous êtes fou. J'ai pas du tout envie de faire de la politique.
Tu préfères laisser ça aux pourris qui s'en mettent plein les poches depuis des années ?
Je préfère rien. J'en suis pas capable.
Mais si, t'en es capable. Je t'ai vu t'occuper de ta mère quand elle était malade et pourtant tu préparais tes examens.
Si je vous avais pas eu.
Arrête. Ce que tu as, tu ne le dois qu'à toi-même, à ton travail. Tu veux que je te dise la vérité ? Si j'avais une fille, j'aurais voulu qu'elle soit comme toi. Tu serais une mère, un mère formidable, Pauline. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu connais leurs problèmes, tu sais de quoi ils ont besoin et eux, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance.
C'est un métier, docteur, c'est pas le mien.
Mais non, c'est pas un métier, la politique. Ça ne devrait jamais l'être. C'est un engagement, un honneur.
Faites-le, je voterai pour vous.
Oh non, moi j'ai fait mon temps. Non, la France a besoin de forces nouvelles, elle a besoin de gens comme toi.
Arrêtez, docteur.
Ça te fait peur ?
Non, j'ai pas envie, c'est tout.
T'as pas envie de changer une ville où on laisse les voyous cambrioler les morts ? T'as pas envie de te battre pour amener du travail dans ta région au lieu de devoir filer dans les pays où on exploite les enfants qui ont l'âge des tiens ?
Vous croyez que c'est moi qui vais changer le monde ?
Mais oui !
À Hénard.
Mais oui, bien sûr que oui, c'est en changeant les choses autour de soi qu'on change le monde. On se bat jamais pour des idées, tu sais. On se bat pour ceux qu'on aime, pour ses enfants, pour ses parents. Non mais, ça n'a rien d'idéologique que ce que je te propose. Ce que je te propose, c'est d'être concret, efficace, ici, chaque jour, auprès des gens. Tu sais le faire, ça !
Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique.
Ah ! Tu vois que tu t'intéresses à la politique.
André Dussollier, ce rôle a un grand défi, c'est de, je dirais moi, mettre du miel dans du poison.
Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'en effet, on ne le voit pas venir. Et il est tout à fait proche d'elle, elle est infirmière, il est médecin, ils ont un contact avec la population, très généreux, ils sont présents. Il a été présent pour son père, qui est communiste. Et donc, voilà, il a des idées auxquelles il tient, il sent bien que ça bascule un peu et qu'il doit peut-être rassurer l'électorat. Et elle, elle est tout indiqué pour ça.
Est-ce qu'on a peur de l'image d'un tel rôle ?
Je me suis pas posé la question comme ça parce que j'ai l'impression qu'on pense d'abord au film et à l'effet que ça peut produire. C'est rare qu'on fasse des films politiques en France, très rare, il y en a pas beaucoup. Et d'autant que et aujourd'hui, à quelques mois des élections, évidemment, un film qui raconte un peu ce qu'est le Front National ou le parti d'extrême droite ou les partis populistes, il y en a beaucoup dans le monde qui arrivent au pouvoir. Donc c'était important de raconter un peu quels sont les sentiments des gens qui votent pour ces partis, pourquoi ils sont attirés. Et c'est ça que montre Lucas Bellevaux à travers son film. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de faire le portrait des leaders, qu'on voit tout le temps à la télévision et qu'on entend dans les face-à-face, mais on est là, au contraire, pour être proche des questions que pose Émilie Dequesne et son personnage.
Sébastien Aubagny, vous avez vu le film. Du coup, est-ce que vous avez compris pourquoi les gens de cette ville votent ce parti extrême ?
Je pense que oui, le fait qu'il y ait cet homme, un riche notable, qui dédiabolise un peu le parti nationaliste, ça les rassure et ça les attire.
Quel effet vous a fait le film ?
Quel effet il m'a fait ?
Non, parce qu'il est glaçant, le film aussi.
Ouais, il est glaçant. En fait, j'ai aimé, en fait, ce côté manipulateur, en fait. C'est parce qu'en fait, le film, c'est sur tout ça, en fait. C'est sur une manipulation. J'ai trouvé ça intelligent parce que moi, André Dussolier est à côté de moi, je vais le dire quand même. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ça va pas être ma cam, quoi. Et en fait, justement, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des enjeux moraux forts aussi, d'ailleurs, ça fait un peu écho à Nos. Sur les personnages, j'ai trouvé ça super, en fait, et je trouve que c'est un film qui arrive au bon moment dans une année d'élection présidentielle.
André Dussolier,
oui, c'est important. Il a raison parce que c'est vrai que ça part des personnages et de la réalité des personnages. C'est plutôt rare dans un film. D'abord, c'est rare qu'on fasse des films politiques et c'est rare qu'on le montre de cette façon-là. En général, on a toujours le discours habituel des leaders, etc. Là, on part de la base. Et d'ailleurs, à travers l'extrait que vous nous avez fait entendre, on voit bien quelles les questions elle pose et l'éloignement qu'elle a avec la chose politique en soi. Et après, le médecin la rassure et lui montre que tout ça est très simple et que ça part de la vie concrète de tous les jours.
Les films politiques français sont rares, hélas, vous le disiez, mais ça fait le deuxième en peu de temps pour vous, après Le Grand Jeu de Nicolas Parisien,
oui,
vous jouez un
oui,
personnage aussi ambigu, aussi manipulateur. Vrai, les réalisateurs pensent à vous hein, pour jouer les salauds lumineux. Oui.
Mais de toute façon,
ça vous plaît.
C'est des personnages toujours intéressants. Oui,
de composition, bien sûr.
Totalement.
Oui, on manipule tous plus ou moins. Ça dépend à quel but on a, évidemment. Parce que si c'est pour séduire, ou si c'est pour plaire, ou si c'est pour attirer quelqu'un vers le bien, pourquoi, enfin, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, chacun a sa valeur en tête. Lui, il pense que c'est pour le bien de la patrie, de la nation, de la France. Et c'est vrai que c'est des idées de droite qui datent de Maurras, auxquelles il est attaché.
Et donc, il ne la lâche pas, cette infirmière, même si elle n'a pas encore accepté.
J'y connais rien.
Tu connais les gens. Mieux que n'importe qui. Mieux que le maire qui est là depuis 30 ans. Tu connais leurs souffrances. Tu prends soin d'eux.
Je suis pas compétente, docteur, vous le savez bien. Les lois, la gestion...
Mais on s'en fout. T'auras des adjoints, un directeur de cabinet. On a plein de gens compétents pour ça.
Vous n'avez pas besoin de moi, alors.
Si, on a besoin de quelqu'un qui s'approche des gens sur le terrain. C'est pas ça de laisser le pouvoir aux technocrates. La démocratie repose sur les élus du peuple. Et ils doivent être proches du peuple, sinon ça n'a aucun sens. Le maire est là pour définir le cap, pour faire les choix politiques et les imposer. La gestion, on la laisse au comptable.
C'est vrai que ce serait...
Ce serait une nouvelle vie. C'est rare d'avoir l'occasion de changer de vie comme ça. Il y a peu de gens qui ont cette chance-là, tu sais.
Tellement de responsabilités.
Ah oui, c'est beaucoup de responsabilités. Les écoles, les aides sociales, la santé, la sécurité, les transports, tout ce qui fait la vie plus ou moins facile. C'est ça qu'un maire peut améliorer. Et c'est ça que les gens attendent de lui, de concret.
André Dussolier, ce qui frappe dans cet extrait comme le précédent, c'est l'extrême véracité de ce que vous dites. Le scénario était écrit comme ça, tout était au cordeau de cette façon-là.
Oui, oui, absolument.
On y croit.
On y croit. Ouais. Et je me rends compte en écoutant en effet les dialogues que C'est vrai que la chose politique paraît toujours lointaine, oui, pour les gens, hein, et toujours c'est un monde à part, quoi. Et c'est difficile. On en parlait avec Sébastien juste avant. Mmh. Moi-même, j'appartiens à une génération. Enfin, je suis né en 46 et il y avait eu la guerre juste avant et il fallait pas parler politique à table, ouais, parce qu'il y avait trop. Mmh. C'était dans une région en plus où il y a eu des poches de résistance. Enfin, il y avait trop de conséquences graves et donc on parlait pas politique. Je regrette vraiment de pas avoir été éduqué à la chose, de pas avoir eu les cours d'instruction civique. Il y a des familles où le débat est très, où la parole est ouverte. Mmh. Maintenant, elle s'ouvre de plus en plus, y compris à l'intérieur de ce parti et pour les gens qui votent pour ce parti. Mmh. Mais c'est vrai que ça paraît toujours un peu lointain. Mmh. Et là, le mérite de ce film-là, c'est de faire comprendre que c'est à portée de main, quoi, et en plus, il lui demande de se présenter aux élections municipales. Bon, évidemment, c'est avec une couleur d'extrême droite.
Il est tellement fort qu'il va réussir à la faire éloigner de son père à elle, qui est communiste. On imagine avec un sacré passé, il a un discours d'une grande force.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, bon, on a tourné dans le Nord. Il nous est arrivé évidemment d'avoir un contact avec tous les gens qui étaient proches et qui tournaient dans le film. Et bien sûr, c'est frappant et c'est intrigant de voir quand même que toute cette population qui votait à l'extrême gauche.
Là aussi, c'est réaliste.
Et c'est très réaliste et vote maintenant à l'extrême droite. Donc il a fallu quand même beaucoup de déceptions, de désillusions. Auxquels n'ont pas su répondre les partis traditionnels, quoi. Depuis, et moi, c'est vrai que depuis, ça fait longtemps quand même. Là, je profite de l'âge pour dire que moi, j'entendais parler de ça dans ma région. Déjà, les différences, les fossés qui se creusaient entre, j'habitais en province, mais entre la lisière des villes, les banlieues, comme on dit, et puis le centre, etc. La différence, la séparation, c'était déjà frappant. Et là, maintenant, ça l'est devenu de plus en plus. Et c'est inquiétant, la violence est là à portée de rue, de porte. Donc c'est inquiétant avec tout ce qu'on voit. Donc du coup, depuis 2002 en plus, ça m'a frappé à ce moment-là où quand Lionel Jospin a dit je me retire parce que voilà, il avait l'honneur de pas vouloir continuer, ils ont battu par Le Pen. C'est vrai que ça fait un moment quand même qu'on ne voit pas les réponses qu'on peut apporter aux gens qui se résolvent à voter pour le parti extrémiste.
Comme un mur.
Oui, comme un mur, et c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui il est en tête des sondages et que aujourd'hui en plus avec tout ce qui se passe, je me demande si on fait pas, on n'ouvre pas une voie royale au parti d'extrême droite.
Alors justement, le Front National proteste contre le film. Est-ce que vous pensez ou vous espérez que ce film va faire changer des mentalités?
Non, je pense pas que c'est pas seulement un film qui fait changer. Je pense que les gens qui veulent voter pour le Front National continueront, film ou pas film. D'ailleurs, ce film-là, c'est vrai que le Front National s'est tout de suite prononcé à
sans
partir de la bande-annonce,
hein,
sans l'avoir vu. Oui, très rapidement et un peu, de façon, rapide et caricaturale presque, parce que bon, mais c'était peut-être pour dissuader, pour le classer, ce film-là, dans le compartiment, bobo, je sais pas, enfin, des gens qui font du cinéma. Et alors qu'il est pas caricatural et qu'il raconte vraiment la situation des gens, encore une fois, qui votent pour le Front National.
Il dit même le contraire de ce qui se passe en ce moment au Front National, parce que l'actuel président du Front National a fait alliance avec le personnage de Guillaume Gouix, joué par Guillaume Gouix, c'est-à-dire les anciens nervis hyper violents. Donc le film est en deçà de la réalité, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on peut se poser beaucoup de questions, et on voit bien, en effet, que dans pas mal de municipalités où il y avait pas mal de gens qui sont venus, d'ailleurs, et qui sont venus avec le Front National, sont partis depuis. Il y a une évolution dont on parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un film qui peut-être montrer non pas à ceux qui sont déterminés, mais aux hésitants, aux sympathisants, la réalité des choses.
En dehors d'être un grand rôle, est-ce qu'il y a une mission, c'est un grand mot aussi,
oui.
Vous endossez quand même, c'est pas n'importe quel rôle.
Non, c'est pas n'importe quel rôle, mais en même temps, c'est à travers un film, bon, qui appartient à son metteur en scène. Nous sommes que les interprètes. Moi, j'ai pas beaucoup connu d'acteurs. Dans ma génération, je me souviens de Gian Maria Volonté, qui vraiment faisait des choix radicaux.
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Des films, des films vraiment politiques et à portée politique et qui chassaient tous les autres de sa filmographie, donc vraiment c'était un pur et dur, mais sinon je pense pas qu'un acteur puisse avoir la prétention, ou puis même quand on voit défiler les pétitions, tout ça, j'y crois pas beaucoup. Je pense pas que ce soit ça, c'est les arguments qui sont déterminants pour le public, qui viennent d'un acteur ou de n'importe qui dans la population.
Oui, mais pour conclure, est-ce que il y a un film dans votre vie, ou même deux ou trois, pas dans lequel vous êtes, hein,
oui,
qui a un peu changé votre vision des choses.
Ben, c'est vrai que quand on voit les hommes du président, de Pakula, quand on voit Z, bon, c'était sur des événements bien précis, c'est vrai que ça fait réfléchir quand on voit la manipulation dont parlait Sébastien, ou des choses, des faits politiques dont on a quelquefois que les commentaires ou que les informations et que tout d'un coup, là, on rentre dans le cœur des choses. C'est vrai que ça fait réfléchir et que ça apporte beaucoup plus.
Mmh. Ben, je vous remercie. Enfin, moi, je suis pas très fort pour tout ça, mais merci au jury. Franchement, c'est... Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, et je vais remercier le Festival d'Angoulême, évidemment, et de nous avoir reçus, et bien reçus. Et l'hôtel était mortel et tout, donc... ouais, c'est pas mal. Et voilà, et je vais remercier mon réalisateur, Stéphane Strecker, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir. Il n'a pas de prix, donc voilà. Donc. Non, mais je le partage avec lui, avec les producteurs du film, qui sont ce genre de producteurs qui dépassent leur fonction de producteurs. Et voilà, et je les aime vraiment beaucoup. Je le partage aussi avec ma camarade de jeu qui s'appelle Lina. Et c'est un bonheur de jouer avec une actrice pareille. Et je le partage aussi avec mon agent, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà. Moi, en fait, ça va, je me démerde bien, non?
Voilà ce petit malin, là, il est à côté de nous ce matin, dans le studio Valois, du meilleur acteur au Festival d'Angoulême, Sébastien Houbani, pour votre rôle dans Nos, de Stéphane Strecker, et bon acteur sur scène aussi, très à l'aise. Avant d'évoquer ce film Nos, on va un peu revenir sur vous. Études en hôtellerie, cuisinier dans plusieurs restaurants étoilés de la capitale.
Tout à fait.
Mais vous pensiez au cinéma déjà à l'époque?
Pas du tout.
Mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Moi, je me suis toujours laissé un peu guider par le vent. Et en fait, non, j'étais cuisinier dans des restaurants étoilés. Et puis, à un moment, j'ai fait quelques saisons. Et je revenais de saison, j'étais dans le train, j'ai croisé un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis quelques années. On s'échange un peu. Des nouvelles, savoir ce qu'il devenait. Il me dit qu'il veut être comédien, qu'il est inscrit dans un cours de théâtre, et puis il m'invite voir une audition au théâtre du Gymnase. J'y vais, je prends une claque dans la gueule.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous vous souvenez?
Je vais dire sincèrement, la première chose, déjà j'étais très ému par rapport à tout ce que je voyais. Je me suis dit putain, j'ai les couilles de le faire, quoi. Ouais, c'est la première chose. J'avais envie de monter sur scène, quoi. J'avais envie de le faire. Donc voilà. Bon, ensuite je suis sorti. J'ai croisé le prof de théâtre et à l'époque j'avais des cheveux longs. Il m'a dit tiens, j'en ai pas des comme toi. Il faudrait que tu viennes t'inscrire au cours. Bon voilà. Puis après moi je travaillais beaucoup en cuisine. On n'a pas beaucoup de vie. On travaille le matin, le soir et pendant la coupure. Généralement je m'emmerdais un petit peu. Donc j'allais dans des bars boire des bières et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas s'inscrire à des cours de théâtre histoire de tuer le temps. En plus ça tombait bien. C'était de 14h à 17h. C'était parfait. Puis en plus j'avais repéré qu'il y avait quand même pas mal de jolies filles dans le cours de théâtre. Dans les cours de théâtre, il y a vachement de jolies filles. Donc, et donc, bon, enfin, non, mais je déconne. Et donc, voilà. Et puis, je me suis pris de passion, comme ça, au fur et à mesure. Et à la fin de cette année, j'ai passé cette fameuse audition que j'avais vue l'année précédente. J'étais repéré par un agent. J'ai commencé à passer mes premiers petits castings, des petits rôles à droite, à gauche.
Un beau rôle dans Juliette de Pierre Godot, Hassan dans Géronimo de Tony Gatliff, Nous trois ou rien de Kairon, dans lequel vous jouez un opposant au Chadiran avec une grosse, grosse moustache. Et enfin, ce premier rôle dans ce premier long métrage, ce long métrage Nos de Stéphane Strecker, dans lequel vous jouez Amir, le grand frère de Zahira, dans une famille belgo-pakistanaise, et des parents qui vont lui imposer un mariage traditionnel, contre sa volonté bien sûr, et vous êtes au moins au début déchiré entre bien sûr votre affection, votre amour pour elle, et le poids des traditions, et je le disais en démarrant, vous parlez ourdou dans ce film, plus maintenant mais vous l'avez appris, extrait.
Bon, écoute, je vais être en retard à l'école Zahira, je t'ai dit, je vais parler, il veut rien entendre, il veut rien.
T'es d'accord avec lui?
Quoi?
T'es d'accord avec lui ou t'as peur de lui?
Écoute, c'est pas que je suis d'accord, mais je le comprends, voilà, c'est tout. Je le comprends, tu sais comment il est.
On quitte à la sorte, je t'ai retombé.
Et ça n'est... Lekin, tout m'a karogi family kebarer. Hein? Zahira, qu'a karogi à quel...
Mais à quel n'est-ce pas? Tariq, qu'est-ce que c'est?
Tariq.
Bonjour.
Ça m'a dit que tu m'as bébé qui t'a rouge qui se mate.
Rouge qui se mate.
Hein, moi j'ai qui n'est. Agarre ton bout de côte j'ai. Tu sais quoi je t'ai côte j'ai. Qui s'y a refait midi, mais au titre, tu sais quoi j'ai. Tu le sais ça.
J'irai pas mercredi.
Écoute, si tu fais ça là, c'est grave. Tu m'entends? Réfléchis un peu. Là, ça sera grave.
Tu seras toujours là pour moi.
Il est tout à l'heure, c'est pas à te.
Bon, là.
Mais à mes chats, tu m'auras ça, donc.
André Lucelli, vous avez l'air impressionné par cette prestation.
Oui, parce que
bilingue.
D'une langue à l'autre, c'est le même naturel. C'est ça qui est bien.
Oui. Parce qu'en fait, il est dans un escalier, pour pas que les voisins vous entendent, vous parlez en ourdou ou en français quand
c'est-à-dire
en fonction de leur passage.
Les peu de fois où on utilise la langue ourdou dans le film, c'est pour pas se faire comprendre des autres. Mmh. Ce qui se passe souvent chez les gens qui sont d'une double culture et qui parlent deux langues. Moi, je sais que j'ai mon meilleur ami qui est iranien et quand je vais chez lui, quand il parle
farsi
avec sa mère, c'est pour que moi je comprenne pas. C'est des trucs un peu privés, quoi.
Ouais.
Donc,
Vous avez dû apprendre une langue étrangère
de temps en temps, le russe, ou des choses comme ça.
Pour jouer Staline.
Non, même pas. C'était avec les Russes, mais avec Sergueï Bodrov, je me souviens. Mais alors, le plus étonnant, c'est quand on parle avec d'autres acteurs qui sont chacun dans leur langue. Il m'est arrivé de jouer avec un Palestinien, un Bulgare. Et alors, c'est curieusement, ça fait rien. C'est ce qu'on ressent qui compte le plus,
c'est
évidemment. Et c'est pas les mots, c'est pas la langue. On n'est pas gêné par la.
En fait, André a dit un truc très juste, c'est-à-dire que d'apprendre une langue phonétiquement, tout ça, c'est pas le plus dur. Mais c'est de garder le même naturel et de, au final, de mettre un sens aux phrases, c'est-à-dire de vraiment être dans l'émotion demandée. Et en plus, le ourdou, c'est très compliqué parce que le verbe, la tonale, tout ça, se situe pas au même endroit. Donc, ça joue sur la manière d'interpréter les répliques.
En dehors de bien parler ourdou, vous êtes un bon acteur, ça c'est sûr.
Merci beaucoup.
Et le film lui-même n'est pas une charge contre la religion.
Pas du tout.
C'est-à-dire, ce film ne juge pas, en fait.
Non.
Il
expose. Grande complexité.
Ouais, il expose les personnages.
C'est pas, de toute façon, je l'aurais pas fait. Si c'était pour être à charge contre la communauté pakistanaise ou la religion musulmane, enfin, parce que le film, en fait, est né donc d'une histoire vraie qui s'est passée en 2007 en Belgique, qui a secoué la Belgique. Et en fait, Stéphane Strecker a jugé d'en faire un film à partir du moment où il a appris par un ami du frère, un ami très proche du frère, que le frère aimait énormément sa sœur et qu'il disait même il faut pas toucher un cheveu de ma sœur et au procès il l'a répété plusieurs fois et Stéphane Strecker s'est dit mais qu'est-ce qui a pu se mettre au-dessus de l'amour pour arriver à un tel acte, sans parler de la fin du film. Et donc voilà, et à partir de ce moment-là il s'est dit qu'il y avait des enjeux moraux forts.
Et vous avez essayé de trouver une réponse à travers votre personnage?
Mais en fait, chacun a ses raisons. Après, on n'excuse rien, mais chacun a ses raisons. C'est très compliqué de parler sans dévoiler la fin.
Oui. On va pas continuer. Donc, non, mais c'est vrai.
C'est très compliqué.
Oui,
compliqué. Mais non, mais c'était. Qu'est-ce qu'on peut dire là?
Non, c'était par rapport justement à. Il y a aussi donc le fait de ne pas juger. Et puis ne pas juger la religion. C'est-à-dire qu'elle, cette héroïne, elle garde sa religion pour elle. C'est juste les us et coutumes qui sont effrayants.
Tout à fait. D'ailleurs, quand dans le film, elle fuit.
Oui.
Elle emporte sa foi avec elle. Je veux dire, elle continue à prier. Donc c'est pas du tout une question de religion. Et en fait, c'est juste une fille qui avait choisi d'être libre et qui avait fait le choix de pouvoir choisir, en fait, tout simplement.
Voilà. Mais c'est un personnage qu'on défend. Enfin, votre personnage, vous le défendez jusqu'au bout, en l'incarnant, bien évidemment. Mais vous avez envie de le défendre d'une façon générale.
Moi, je pense qu'on peut pas, interpréter un rôle si on le juge déjà. Sinon, c'est le tuer directement. Moi, je suis encore un jeune acteur, donc j'agis beaucoup à l'instinct. Moi, j'ai vu que, en lisant le scénario, qu'il y avait un rôle fort.
Et qu'il y a une tragédie derrière, quand même.
C'est
une tragédie grecque.
D'ailleurs, le film est une tragédie grecque.
Mais oui,
il n'y a pas de méchant, si vous voulez. Dans ce film, il n'y a pas de méchant. C'est la situation qui est monstrueuse. Voilà.
On va écouter un deuxième extrait, à nouveau, entre vous et votre sœur.
Tu sais que j'ai parlé à Imran.
Imran? C'est qui ça, Imran?
C'est mon futur mari, si t'es pas au courant. Un des cousins du bled, là, une des photos.
Tu lui as parlé quand?
Cette nuit, sur Skype. Maman m'a réveillée pour ça.
Et alors?
Et alors? C'était horrible.
Quoi, il te plaît pas?
Bah non, il me plaît pas. Évidemment qu'il me plaît pas.
Zahra, elles font comment les autres?
Bah justement, je sais pas comment elles font les autres. Et je m'en fous.
Tu te rends compte qu'il y a que toi? Il y a que toi qui résiste.
Bah ouais, je résiste. Bien sûr que je résiste.
T'as vu dans quel état était maman quand elle a su pour ta grossesse? Et à bout avec son cœur. Hein? Tu te rends compte que c'est ta famille, ça, Zahra? Dieu te regarde. Dieu nous regarde tous. Et Ina? Regarde, Ina. Elle a l'air malheureuse? Zahra, elle est malheureuse, Ina? Prends exemple sur ta grande sœur pour ça aussi. T'as toujours pris exemple sur Ina pour tout. Mais là, pour ça, plus rien. C'est une faible, peut-être, Ina? Elle a pas de personnalité, Ina. Je te dis, il y a que toi. Il y a que toi.
Ça va?
Ticket. Arrête avec ce téléphone, Amara. Tu le poses.
Ina, que vous évoquez dans cet extrait, elle a quand même un sacré discours vis-à-vis de sa petite sœur, où elle-même s'épanouit dans un mariage qui a été pourtant forcé.
Arrangé,
c'est un discours assez effrayant pour nous, femmes libres.
Bah, avec notre regard occidental, ouais.
Oui.
En fait. Mais elle s'est résignée. D'ailleurs, même par rapport à Zahra, on peut même se dire que elle-même n'était pas contre le mariage forcé, puisqu'elle a vu sa grande sœur se marier. Elle a cautionné à ça. C'est juste qu'elle, elle avait choisi d'être libre, en fait. Mais oui, le discours de la grande sœur, on nous en parle souvent, parce que c'est vrai qu'il est assez effrayant, au final.
Et le scénario était très écrit, vous avez pu ajouter des choses, parce que dans ce genre de scène, on se dit, les arguments comme ça, que vous argumentez beaucoup, est-ce que...
Moi, personnellement, j'ai proposé pas mal de choses. Stéphane Strecker est, je crois, un réalisateur qui aime énormément les acteurs, et donc il les laisse beaucoup s'exprimer, proposer, et après, si ça va pas, il revient à ce que lui, il avait écrit à la base. Mais
on va signaler la belle présence de Lina El Arabi, parce qu'elle, elle a débarqué une semaine avant le tournage.
Tout à fait.
Extraordinaire.
Bravo,
actrice.
Grand bravo à elle. Le film s'appelle Nos, Stéphane Strecker, il sort mercredi prochain. Tout comme chez nous, avec vous, André Dussolier et Émilie Dequesne.
Allez voir ces deux films, vraiment, on vous les recommande chaudement.
On se retrouve après IAM pour parler des sorties.
The people had the right to control their lives and to control their destinies.
You can beat me or jail me, or even kill me, but I'm not going to be what you want me to be.
Freedom, gotta stay free. Gotta stay free.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Le pire, s'amourache et se fréquente sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic, on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits riens, leur gueule de petit saint. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donnent la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Voilà. Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non, désolé, y a pas de gaine sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre, on est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle,
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leur pote aime nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, ah, n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies, c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés? Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disaient trop de Zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde, un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Laurent, question rituelle, qu'est-ce qui a marché ce mercredi?
Eh bien, la première place du podium rock'n'roll de Guillaume Canet, vous allez y revenir dessus.
Vous
nous,
y voulez, vous
allez... nous n'y reviendrons pas pour la seconde place sur alibi.com, et c'est tant mieux. Et à la troisième, L'Empereur, qui n'est pas un film sur Napoléon Bonaparte, mais sur un manchot, comme vous le savez.
Loving de Jeff Nichols. Deux personnes s'aiment dans une Amérique ségrégationniste. Il est blanc, elle est noire. On est en 58 en Virginie. Pour s'être mariés, les Loving vont être condamnés à la prison ou non s'ils décident de quitter l'État de Virginie. Ils iront jusqu'à la Cour suprême pour faire valoir leurs droits, qui cassera ce jugement. Histoire vraie, traitée très sobrement par Jeff Nichols, un peu à l'image de ce couple qui n'a qu'une seule réponse à ses accusations, l'amour inconditionnel qu'ils se portent. Des personnages dignes et filmés dignement, quelques moments de grâce dans un ensemble un peu ennuyeux, même s'il fait écho de façon subtile au débat actuel sur le mariage pour tous.
Un peu ennuyeux, trop sobrement, comme vous y allez dans la litote.
Non,
c'est assez ennuyeux, vraiment, et c'est trop sobre, moi je trouve, parce que pour traiter un tel sujet, il fallait peut-être quand même convoquer un peu plus d'émotion, un peu plus de violence aussi, tout simplement. Écoutez, à force de faire des films sur ce sujet où les noirs sont très très bons et très très gentils, et où les blancs sont très très méchants et très très horribles, ça va finir par poser des problèmes tout simplement de véracité, parce qu'on peut pas à la fois se placer sous le gros chapeau assez facile de d'après une histoire vraie pour laisser passer des choses dont on sait bien qu'elles ne sont peut-être, on peut dire, enfin heureusement qu'elles ne sont pas la réalité. Tout ça m'a semblé, moi, absolument empesé et une sorte de nécessité évidemment d'y adhérer, mais au fond ça n'apporte rien par rapport à l'immense cohorte des films qui ont déjà traité du sujet.
L'histoire d'une mère, Sandrine Vessette, autour de Neige, 20 ans, qui vit sous la coupe de sa grand-mère avec son fils Louis, dans une ferme au milieu de nulle part, quand perdue dans un rêve affolant, elle part à la recherche de la mort qui a emporté son enfant. C'est une nouvelle lecture d'un conte d'Andersen qui s'appelle La vraie histoire d'une mère.
Oui, alors vous savez, Sandrine Vessée, on a de beaux souvenirs de cette cinéaste, un peu lointain, hélas, avec notamment
Y aura-t-il
de la neige à Noël, et puis Martha, qui étaient notamment deux très beaux films avec une sorte de figure récurrente d'une mère médée, c'est-à-dire une mère infanticide, ou qui pourrait l'être, ou qui pourrait tomber dedans, tellement son amour maternel est grand, et c'est une sublime figure, évidemment, de la tragédie, mais très très bien servie par ces deux films-là de Sandrine Vessée. Elle y revient très très longtemps après, elle n'a pas fait de film depuis très longtemps, c'est peut-être pour ça, hélas, que ça ne marche pas, c'est-à-dire que avec un filmage sans relief, qui ne décolle jamais, avec un scénario qui est tout le temps heurté entre du fantastique bricolé, hélas, sans trop de moyens, et puis un vrai réalisme comme elle sait le faire, Sandrine Vessée, reste des obsessions, comme ce lieu clos, comme l'était la ferme de Durati de la Neige à Noël, des choses comme ça, comme l'amour maternel, effectivement, dans son extrémité et peut-être dans son malheur absolu. Mais ça, hélas, on ne retrouve pas le bel esprit de Sandrine Vessée à travers cette histoire d'une mère.
Rock'n'roll de Guillaume Canet, l'angoisse d'un comédien, Guillaume Canet, à l'aube de la quarantaine, paniqué d'apprendre par sa jeune partenaire de plateau qu'il ne fait plus partie de la liste, non pas des acteurs bankable, mais plutôt baisable. C'est moi qui viens d'inventer le nom. Ouais, Guillaume, donc, va tenter de devenir rock'n'roll contre sa vie de famille, sa femme, Marion Cotillard, leur fils, leur maison, les chevaux, etc. Course effrénée pour récupérer cette jeunesse perdue et casser l'image du gendre idéal. Alors oui, c'est drôle. Et j'ai ri à de nombreux gags, et notamment à celui récurrent de Marion Cotillard qui, en actrice obsessionnelle, révise son Québécois à la maison, jusque dans le lit conjugal ou l'épisode chez Johnny Hallyday. Le récurrent est drôle, le répétitif un peu moins, surtout lorsque Guillaume Canet étire certains gags à l'infini, comme si on n'avait pas compris. Sur 2h03, on pouvait enlever, disons, rajeunir le film de 20 minutes et alléger cette deuxième partie à l'humour très gras et malheureusement pas assez absurde à la façon d'un Judd Apatow qui ne parvient pas à égaler dans le trash. Dommage, reste deux points positifs, l'impeccable prestation autodérision de Marion Cotillard, bravo à elle, mais aussi à ce que j'appellerais l'effet Guillaume Canet, bien d'amener la jeunesse dans les salles, et ils étaient nombreux ce matin-là au pâté Vépler à Paris. Dans la forêt de Gilles Marchand, Laurent, un père emmène ses deux garçons dans une forêt en Suède. Le père est un peu effrayant, non? Il est incarné par Jérémy El Kaïm. Oui. Gilles Marchand transcende le film d'angoisse, écrit Jacques Maurice dans Télérama. D'accord? Pas d'accord?
Oula. Gilles Marchand, c'est pas n'importe qui d'abord. C'est quand même le complice attitré, enfin, au moins un moment, de Dominique Moll pour Harry, un ami qui vous veut du bien, notamment. Donc, c'est un scénariste qui compte dans le paysage. Vous savez, il y a un malaise quand on découvre la première scène d'un film et que on sent que ça va pas aller du tout, que c'est
pour vous,
bon, bien entendu, nous sommes en train de parler d'une subjectivité à l'œuvre et à l'écran, donc oui, pour moi, alors ben, ça ne va pas du tout là, cette scène entre un psychanalyste et puis un petit garçon où tout est révélé, de ses angoisses, de l'image paternelle qui ne va pas, qui est déglinguée, etc. Donc tout est là, le film est contenu dans ça, c'est-à-dire que cette scène, elle est programmatique et rien dans le film ne nous détournera du souvenir malheureux de cette première scène qui nous a tout donné. Alors qu'on puisse parler ailleurs dans la presse de Shining parce qu'il est question d'un fils qui a des problèmes de rapport avec son père et c'est angoissant. Non, je suis désolé, mais enfin Kubrick, c'était autre chose que cette petite promenade effectivement horrifique en forêt, mais qui, à mes yeux, effectivement, vous avez raison de le souligner, ne fonctionne pas. Ça s'appelle Dans la forêt de Gilles Marchand.
Heureusement, il y a ce documentaire qui va relever le niveau, j'imagine, Zona Franca, en Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d'or, un chauffeur routier et un jeune vigile croisent la route des touristes en quête du bout du monde, mais au bout du monde, Laurent, la révolte gronde.
Et oui, on est en Patagonie, on est près du détroit de Magellan, c'est effectivement le bout du monde. D'abord, ce sont d'ailleurs des paysages sublimes, une nature incroyable, mais évidemment, même dans les paysages sublimes, eh bien, le raisonnement marxiste aurait lieu, c'est-à-dire qui est très intéressant, c'est la confrontation entre, effectivement, ces hordes touristiques qui viennent notamment dans un immense centre commercial juger de l'effet touristique, et puis ces personnages dont vous venez d'en citer quelques-uns, qui sont eux des Patagoniens, qui vivent là, c'est leur vie quotidienne, plutôt pauvre, plutôt pas très sympathique. Et le cinéaste a en quelque sorte la chance de filmer dans la dernière partie du film quelque chose de très intéressant, qui est un barrage routier mis en place effectivement par la population locale et qui bloque un quart de touristes. Et ce choc des cultures, ce barrage contre un bus de touristes est passionnant à voir et passionnant à suivre. Ça s'appelle Zona Franca.
David Lynch, The Art of Life de John Nguyen, Rick Barnes et Olivia Nygaard-Holm. Voilà un très beau document sur l'origine de la création, celle du cinéaste David Lynch, filmé dans son atelier et uniquement dans son atelier, en train de s'adonner à sa passion de toujours, la peinture, celle qui l'a conduit au cinéma, à ce cinéma mystérieux et fascinant. Alors pour comprendre cette filmographie, tellement d'indices dans ce film où pour la première fois Lynch se raconte, sans se dévoiler, son enfance, ses traumas, ses obsessions, à travers des petits films Super 8. Bon, il faut vraiment être un fan inconditionnel de Lynch pour apprécier pleinement la démarche qui pourra en ennuyer certains, mais reste un document tout à fait inestimable sur l'origine d'une vocation.
Oui, surtout ne rien comprendre à David Lynch, c'est le but. Et exactement. Il faut conserver ça.
Et on termine très vite, on n'a plus beaucoup de temps, par Sac la mort, d'Emmanuel Parot. À La Réunion, Patrice tente de ne pas sombrer dans la folie d'une île hantée par les stigmates du colonialisme. La mort rôde, il fuit. C'est une fiction avec des non-professionnels.
Exactement, et ça fait partie d'un des charmes du film, parce que ces non-professionnels deviennent, grâce certainement au travail du metteur en scène Emmanuel Parot, de vraies incarnations. Dans cette réunion qu'on filme assez peu dans le cinéma français, on a bien tort, même si ici, il n'y a pas du tout l'once du début d'un exotisme. Ce qu'on filme d'abord, c'est la misère, l'héritage colonial et la magie omniprésente.
À une époque où on attaque beaucoup la presse, allons revoir le gouffre chimère de Billy Wilder qui ressort cette semaine.
1951, Kirk Douglas.
On va terminer par un cadeau commun. Oui. Alors, parce que c'est un beau cadeau. Alors, vous avez chacun le vôtre, mais on va peut-être choisir la version DVD pour André Dussolier.
Allez, choisissons la version DVD pour vous, André Dussolier, de ce Kieslowski, le décalogue, fait-il. Tout un programme. La même chose pour vous.
Merci beaucoup.
Sébastien, en Blu-ray, comme on dit maintenant, nouveau format, mais le contenu du coffret est exactement le même.
Immense cinéaste polonais qui est mort, Sébastien, maintenant, mais dont un seul film était au cinéma. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était à Cannes, en 1988, de la stupéfaction devant Tu ne tueras point. Un meurtre par un chauffeur de taxi, c'est extraordinaire, vraiment. C'est un très beau cadeau pour un jeune comédien, je pense.
Bah, merci beaucoup.
Alors, sinon...
Et c'est chez Potemkin, pardon, on le dit pour nos auditeurs, parce que c'est évidemment aussi un conseil pour nos auditeurs.
Sinon, c'est un joli début d'une nouvelle décennie triomphante pour André Dussolier.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Voilà.
C'est bien, j'aime beaucoup la chute.
C'était hier, bon anniversaire. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. Noce, dans lequel vous êtes, Sébastien Oubani, qui sort mercredi, et André Dussolier, dans Chez nous.
On répète deux très beaux films.
Et puis,
nous retrouvez sur franceinter.fr et vous nous podcastez également. Voilà, merci.
Merci, générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Winfield.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Sébastien Bagny. J'y étais.
Et moi, André Dussolier, j'y étais aussi.